À l'écoute du patrimoine, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le service Archives et Patrimoine de la ville de Millau. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette nouvelle pastille, on s'intéresse aux journées européennes du patrimoine et du matrimoine, comme on aime bien l'ajouter, qui ont lieu partout en France ce samedi 20 et dimanche 21 septembre. À Millau et ses alentours, le programme est riche et élargit la focale du patrimoine architectural, le thème choisi au niveau national pour ces journées, via un focus sur la laïcité à l'occasion des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Pour en parler, je suis avec Stéphanie Montsara-Siméon, médiatrice du patrimoine à la ville de Millau. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Sophia.
Pour commencer, c'est la première fois que les journées du patrimoine sont organisées à l'échelle de la communauté de communes Millau-Grand-Causse par votre service, qui travaille toujours à obtenir le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et donc cette année, c'est une programmation plus étendue géographiquement que vous proposez.
Après 12 ans d'existence, ce label a fait la preuve de l'intérêt de la connaissance et de la valorisation du patrimoine dans tous ses aspects architectural, urbain, paysager, immatériel. Et les axes de recherche en fait, de ces dernières années ont mis en évidence quand même les interactions qui sont assez fortes entre Millau et puis les communes alentours, bien sûr, qui sont regroupées ensemble dans la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Donc en fait, ces interactions ne sont pas que historiques. Il y a de nombreux thèmes communs qui entrent en résonance, comme l'agropastoralisme, les paysages grandioses, les savoir-faire autour de la ganterie. Et en fait, tout cela trouve son expression aussi dans l'architecture traditionnelle, l'habitat, le cadre de vie, l'aménagement urbain, le lien social, les modes de déplacement, l'environnement, enfin plein de thèmes qui sont particulièrement intéressants à connecter. Donc en effet, l'extension du label en pays d'art et d'histoire à l'échelle de la communauté commune Millau-Grand-Causse était donc légitime. Comme tu l'as dit, le dossier est en cours de validation. Il a été déposé auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Même si le dossier, le label n'est pas encore officiellement attribué en tant que pays d'art et d'histoire, il nous semblait important, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, de profiter de l'occasion pour préfigurer un petit peu les actions futures qui vont être coordonnées sur le territoire intercommunal autour du patrimoine architectural, qui est en fait le thème de cette 42e édition. Du coup, pour ce programme élargi, on a sollicité les structures publiques et privées qui sont engagées dans la protection et la promotion patrimoniale sur le territoire, mais également au niveau culturel et artistique. Et ça nous a ainsi permis de... Alors, pas forcément d'étoffer l'offre, parce que ces structures-là, elles sont déjà existantes depuis longtemps, elles sont déjà engagées depuis longtemps, mais du coup, de donner une plus grande visibilité et une cohérence à l'échelle d'un futur pays d'art et d'histoire. Donc, c'est ainsi qu'on a pu proposer 36 sites et monuments qui sont ouverts au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Parmi ces sites et monuments, il y en a 12 qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc, pour une première, on est assez content. Et on espère bien sûr que dans les années suivantes, ce programme s'enrichira avec les autres propositions.
Comme on disait en introduction, la ville de Millau célèbre cette année les 120 ans de la loi de 1905, de la séparation entre l'Église et l'État, dite loi laïcité. C'est une loi qui assure la liberté de croyance et de culte, sans que l'État n'en finance aucun. Et c'est aussi une loi qui pose les bases du vivre ensemble sur un pied d'égalité entre citoyens et citoyennes. Les journées du patrimoine s'inscrivent dans les célébrations pour les 120 ans de cette loi à Millau. En quoi pour toi cette loi fait partie du patrimoine?
Cette loi du 9 décembre 1905 est effectivement très importante puisqu'elle a une résonance républicaine, puisque dans l'article 1er de la Constitution de la 5e République de 1958, il est mentionné que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc le principe de laïcité qui découle de cette loi de 1905 est extrêmement importante et effectivement on en trouve de multiples expressions patrimoniales dans notre quotidien. Donc c'est en cela qu'elle est effectivement un élément important de notre patrimoine, puisque bien sûr les bâtiments républicains comme les hôtels de ville mais également les établissements scolaires sont des lieux où s'exprime le principe de laïcité, où sont également visibles les éléments symboliques de la République, comme la devise liberté, égalité, fraternité, comme le drapeau français. Dans les écoles, il y a également la charte de la laïcité. Donc tous ces éléments ont une incidence même aussi sur la conception des lieux et leur adaptation architecturale, parce que tous n'ont pas été construits pour avoir cette vocation à l'origine, hein, comme l'hôtel de ville de Millau qui est à l'origine une banque. Mais il y a eu des aménagements, et dans ces aménagements, au-delà de permettre le fonctionnement quotidien de ces établissements, il y a aussi cette expression de la loi de 1905, puisque ça permet également de garantir à toutes et à tous une égalité de traitement, sans distinction de religion et de conviction. Donc en effet, même si il est... a priori difficile de se dire qu'une loi peut avoir une expression patrimoniale. En effet, on a quand même des éléments très tangibles et construits et qui nous permettent effectivement de parler de cette loi.
Autour de cet anniversaire, vous mettez en avant dans le programme des Journées du patrimoine tous les lieux de culte sur le territoire qui seront accessibles pendant le week-end via des visites libres ou commentées. Il y a beaucoup de lieux de culte, donc on ne va peut-être pas revenir dans le détail sur tout ce qui est proposé. Comme tu disais, une loi qui a une valeur patrimoniale, les lieux de culte aussi, au-delà de leur valeur religieuse, ont aussi une valeur patrimoniale.
L'église catholique, c'est ce à quoi on pourrait penser dans un premier temps. Donc effectivement, ce sont tous les lieux de culte qui sont concernés par cette loi, que ce soit effectivement les églises catholiques, les temples protestants, les synagogues, les mosquées et autres représentations construites de convictions religieuses. Mais effectivement, ce sont aussi autant de monuments et d'architectures qui sont révélatrices de savoir-faire technique, de savoir-faire artistique, qui dépassent bien sûr aussi la question des religions elle-même. Donc c'est en ce sens que il est important pour nous de pouvoir valoriser aussi ces lieux de culte en dehors de l'aspect purement religieux, parce que en effet, au niveau patrimonial, architectural, ce sont des lieux particulièrement riches et qui sont révélateurs aussi des époques de construction notamment.
Parmi les visites commentées, on pourrait citer celle du temple protestant de Millau, de l'église Notre-Dame de l'Espinasse, de la chapelle Saint-Thomas de la Maladrerie. Qui va proposer ces visites commentées ?
Alors sur les visites commentées, l'église de Notre-Dame de l'Espinasse, ce sera moi, le samedi de 11h30 à 12h30. Sur le temple protestant, donc construit donc vers 1870, donc avant la loi 1905, donc toujours propriété de la commune, mis à l'usage de la communauté protestante. Donc là, le temple et la chapelle de Saint-Thomas de la Maladrerie, ce seront les membres du conseil presbytéral de l'église protestante unie du Sud-Aveyron qui accueilleront les visiteurs pour des visites. Au niveau de la mosquée La Guidance, qui a été, elle, inaugurée en 2008, ce sont les membres de l'association culturelle des musulmans de Millau qui assureront l'accueil et les visites de la mosquée. Et par rapport aux autres lieux de culte du territoire de la communauté de communes Millau-Grand-Causse, il faut noter des visites commentées, notamment à l'église Notre-Dame des Treilles, qui se situe au hameau de Saint-Véran, sur la commune de La Roque-Sainte-Marguerite, où une membre de l'association des Amis de Saint-Véran vous pourra découvrir cette église du XIIe siècle, qui a été entièrement restaurée et qui est elle-même classée monument historique. Donc ça, c'est effectivement très important à mentionner. Ce sont également 18 églises qui seront accessibles en visite libre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Donc là, on voit bien qu'autour des 120 ans de la loi de 1905, il y a eu aussi une fédération pour montrer, ouvrir ces lieux de culte sur la communauté de communes Millau-Grand-Causse.
Il y a un deuxième focus autour des Journées du patrimoine à Millau et Millau-Grand-Causse, c'est le lancement de l'étude pour les travaux de restauration du lavoir de l'Hérol. Vous proposez d'ailleurs un lancement officiel de cette étude, un avant-goût des Journées du patrimoine le vendredi 19 septembre à 15h. Quelle est la valeur patrimoniale du lavoir ?
Alors, la valeur patrimoniale du lavoir est extrêmement importante. Il est protégé au titre des monuments historiques. Il a été construit au milieu du XVIIIe siècle à l'extérieur des remparts médiévaux, qui étaient à cette époque en cours de destruction, il est du coup extrêmement symbolique d'une évolution urbaine très importante à l'échelle même nationale, puisque toutes les villes sont un petit peu dans cette logique à ce moment-là, pas d'effacer complètement les traces des villes médiévales, mais on est sur une expansion urbaine liée à une évolution démographique assez importante qui oblige en fait l'extension des villes en dehors de ces limites médiévales, donc, et la construction de faubourgs. Le lavoir de l'Hérol a été, sa construction a été décidée pour à la fois embellir la ville et permettre de répondre à une certaine demande liée aussi à son usage en tant que lavoir. Il a été construit à l'extérieur donc, de ces fameux remparts parce qu'il a des dimensions assez impressionnantes, donc il fallait avoir suffisamment d'espace pour pouvoir le construire. Il a été également construit en partie avec la récupération des matériaux du rempart qui a été détruit en même temps. Donc en effet, pour toutes ces raisons, à la fois en tant que symbole d'une architecture assez impressionnante pour un monument de ce type et par rapport à son usage, par rapport à la symbolique de l'évolution urbaine de la ville, mais également par rapport à ces éléments décoratifs, puisqu'on peut voir des têtes d'Indiens d'Amérique sur les clés d'arc. C'est un monument vraiment très intéressant et très important pour la ville de Millau.
Pour marquer cet événement, vous proposez une visite à plusieurs voies du lavoir, le samedi et le dimanche à 15h. Alors, qui sont les voies de cette visite ?
Ce sera un duo par Pierre Vergély, qui est géologue et qui va aborder en fait toute l'histoire des matériaux de construction. Donc, comment visuellement on peut repérer les types de matériaux et les conditions de leur mise en œuvre par rapport à leur qualité technique notamment. Et en complément, moi je viendrai en support aux interventions de Pierre pour évoquer plutôt l'histoire du monument comme je viens de l'évoquer justement.
Les lieux phares du patrimoine millavois sont accessibles pendant ce week-end des journées du patrimoine, la Tour des Rois d'Aragon et le Beffroi, ainsi que l'hôtel de Thoriac où il est possible de visiter librement l'exposition de Jean-Michel Prêt, Géologie approximative, que vous proposez aussi de découvrir via une visite guidée et participative le dimanche à 11h. Quel est le principe de cette visite participative ?
Les œuvres de Jean-Michel Prêt sont très particulières puisqu'elles s'inspirent de paysages naturels réels, mais ce ne sont pas des représentations réalistes. Donc là, je m'appuie vraiment sur ce qu'en dit l'artiste lui-même. C'est sa main, en fait, qui retranscrit des impressions et des sensations minérales que lui-même a emmagasinées peut-être dans son inconscient et qui s'expriment comme ça à travers ce style très particulier en noir et blanc, de petits traits au stylo. Comme le dit Jean-Michel lui-même, il n'a pas d'intention à la base. Donc le résultat de son travail ne peut pas être accroché à une intention vraiment définie à l'origine de la création. Donc à partir de là, ça ouvre par contre une grande liberté sur l'interprétation personnelle. C'est-à-dire que l'avantage des créations de Jean-Michel, c'est qu'elle renvoie forcément à des réflexions intérieures par rapport à ses propres références. Et c'est en cela qu'elle est participative, cette visite. C'est-à-dire qu'on est plus après sur un échange par rapport à certaines œuvres, ce que chacun peut y voir. J'y vais moi-même, hein. Je vais dans un premier temps pour faciliter, libérer la parole, exprimer ce que moi, personnellement, je vois dans les œuvres de Jean-Michel Prêt, pour que chacun puisse aussi laisser parler son imaginaire, se construire des histoires, puisqu'il y a beaucoup de failles et de cheminements dans ces représentations de paysages qui ouvrent sur des perspectives d'interprétation presque méditatives. Donc c'est en cela que ça sera participatif.
Un autre lieu qu'il est possible de découvrir presque uniquement à l'occasion des journées du patrimoine, c'est le château de Sambucy à Millau, qui propose une escapade enchantée, une démonstration de métiers d'art, des jeux découvertes et des visites guidées. Est-ce que tu veux revenir sur ce lieu ou ce programme ?
Oui, l'hôtel de Sambucy de Sorgues est un élément patrimonial très important de la ville de Millau, qui a été construit au XVIIe siècle, justement à l'extérieur des remparts du Moyen-Âge, donc sur un site extrêmement grand. Et on est effectivement sur un monument dont l'architecture est typique de l'architecture du grand siècle. Donc au-delà du bâtiment lui-même, ce que vous pourrez découvrir dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, ce sont les extérieurs, les jardins, notamment les jardins à la française. Donc là, des visites proposées par l'Office de tourisme les samedis et dimanches après-midi, toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est l'occasion de connaître un petit peu plus ce lieu que beaucoup de Miavois finalement ne connaissent pas forcément, car il est assez protégé dans son écrin. Mais l'hôtel de Sambucy de Sorgues propose aussi un certain nombre d'animations dont tu as parlé, que ce soit des démonstrations des métiers d'art, mais également une conférence qui aura lieu samedi 20 septembre à 17h30 par Lola Pradeil, qui est maître verrier miavoise. Donc elle fera une conférence sur l'art du vitrail dans les maisons bourgeoises du 16e et 17e siècle. Il y a également l'association Otao, un art de vivre au naturel, qui fera une démonstration de Tai Chi Quan et de Kidance, j'espère que je le dis bien, à 16h30 le samedi après-midi. Donc oui, un programme toujours très riche au château de Sambucy, dans les jardins, donc avec un tarif préférentiel à 3 € pour l'accès.
À l'échelle de la communauté de communes, un événement qui a retenu mon attention sur le programme, c'est la visite commentée des caves d'Entre-deux-Monts sur la commune de Rivière-sur-Tarn. C'est le samedi à 11h et c'est un village de caves où la ventilation naturelle est propice à la conservation du vin. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ?
Sur cette partie de la vallée du Tarn, on est effectivement sur une vallée qui a été fortement marquée par l'histoire viticole. Donc il y a en effet de nombreuses caves, de caves à vin, qui ont été construites. Pourquoi cet endroit aussi ? Parce qu'en effet, on a ces failles naturelles qu'on appelle des fleurines, qui laissent passer l'air et qui permettent du coup une aération tout à fait optimale pour la conservation et le vieillissement du vin. Et sur le site des caves d'Entre-deux-Monts, on a à peu près une vingtaine de caves qui forment comme un village, qui sont des caves semi-troglodytiques, donc elles sont vraiment en partie intégrées dans le massif naturel où se trouvent ces fameuses fleurines qui assurent la ventilation. Et elles sont donc en partie construites avec une construction très traditionnelle et révélatrice, notamment de l'architecture cossonarde, avec ces grandes toitures couvertes de lauzes de calcaire qui reposent aussi donc sur des voûtes en pierre et des grandes portes qui permettent notamment de rentrer dans les caves où sont stockés des grands tonneaux. Alors des tonneaux qui sont assez volumineux et qui suggèrent qu'ils ont été montés sur place. On a en effet l'occasion dans ce site assez exceptionnel de pouvoir visiter ce site et de bénéficier des explications des membres de l'association des caves d'Entre-deux-Monts qui seront sur place pour vous donner toutes les informations nécessaires.
Comme on l'a vu, le programme est vaste. Stéphanie, il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts ou des nouveautés de cette année que tu souhaites mettre en avant ?
Alors, je pense qu'on a effectivement bien fait le tour et je vous invite à découvrir le programme en détail. Il y en a pour tous les goûts, à tout moment, le samedi, le dimanche, que ce soit en visite libre ou accompagnée. Vous avez en effet autant de possibilités. Je pense notamment, on évoquait aussi les églises. Donc, il y a toutes celles de Rivière-sur-Tarn qui sont ouvertes à la visite, celles du Rosier, de Peyrelot, de Poy, de Compregnac avec Peyre. Donc n'hésitez pas à aller sur tous les sites. Il y a également à Mostuéjouls, dans l'église Notre-Dame-des-Champs, une exposition sur Balzan. Donc en effet, on a une richesse qui nous incite justement à continuer et à continuer à étoffer ce programme pour les éditions suivantes.
Est-ce que tu as d'autres informations pratiques à donner aux auditeurs et auditrices ?
Ils trouveront notamment dans le programme qui est diffusé un petit peu partout sur la communauté de communes une carte qui facilitera notamment les déplacements. Effectivement, on est quand même sur un territoire un peu contrasté, donc des fois, si on veut aller de Compreignac au Cosnoir, c'est pas toujours très rapide.
Merci beaucoup Stéphanie Montserrat-Siméon. Je rappelle que tu es médiatrice du patrimoine à la ville de Millau. Tu nous as parlé des journées du patrimoine qui ont lieu le samedi 20 et dimanche 21 septembre. Le programme à l'échelle de la communauté de communes Millau-Grand-Causse, comme on vient de le détailler, est très riche et vous pouvez le retrouver en intégralité sur millau.fr et vous pouvez aussi réécouter cette pastille sur radiolarzac.org. C'était À l'écoute du patrimoine, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le service Archives et patrimoine de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.